VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. En ce mardi 25 février 2020, Jacques Aristide avec vous. Les titres que nous allons développer ce soir. Hosni Moubarak n'est plus maître absolu de l'Égypte avant d'être emporté dans le tumulte du printemps arabe. Il est présenté par l'actuel pouvoir comme l'un des héros de la guerre de 1973 contre Israël. Enquête anticorruption en République démocratique du Congo, un deuxième entrepreneur étranger en détention préventive.
Il y a eu des infrastructures qui avaient été financées par les fonds du gouvernement. Ça fait à peu près une année que ces infrastructures-là n'avancent pas.
La Chine promet aide et matériel médical aux pays africains face à l'épidémie de coronavirus. Et fin du périple du président américain en Inde, Donald Trump salue deux journées fantastiques et loue les qualités du premier ministre indien Narendra Modi. Le monde aujourd'hui, vous avez le programme et c'est parti. Il était l'homme fort de l'Égypte durant une trentaine d'années avant d'être détrôné lors du printemps arabe il y a 9 ans. Hosni Moubarak est décédé à l'âge de 91 ans aujourd'hui. Pour beaucoup d'Égyptiens, il restera le dirigeant d'un régime corrompu. Il aura droit à des funérailles militaires demain. Le point avec Abdourahmane Dia.
La présidence égyptienne a publié un communiqué présentant ses condoléances à la famille de l'ancien dirigeant, présenté comme l'un des héros de la guerre d'octobre 1973 contre Israël, durant laquelle il avait dirigé l'armée de l'air. Mohamed El Baradei, prix Nobel et figure de proue de l'opposition libérale à Hosni Moubarak, a également présenté ses condoléances à la famille du défunt. Sa famille a d'ailleurs précisé que la présidence égyptienne se chargerait d'organiser les funérailles de Moubarak, qui a dirigé l'Égypte pendant 3 décennies. Hier, son fils Ala Moubarak avait indiqué sur Twitter que son père avait subi une opération chirurgicale et qu'il se portait bien grâce à Dieu. La santé fragile de M. Moubarak a été l'objet d'incessantes spéculations et d'informations contradictoires. Il a été régulièrement admis en soins intensifs depuis qu'il a quitté le pouvoir. Il a été condamné à la prison à vie pour complicité dans la mort de manifestants, mais la justice a ordonné un nouveau procès dans lequel il a été acquitté en 2017.
L'actualité ailleurs, sur le continent, République démocratique du Congo, le patron libanais d'une entreprise de construction a été placé en détention préventive. C'est le résultat d'une vaste enquête sur des détournements de fonds publics présumés dans le financement des grands chantiers du chef de l'État congolais, Jamal Sami, de la compagnie Somibo, rejoint en détention l'entrepreneur américain David Blattner, arrêté vendredi dernier. Nathalie Barge pour les détails.
Jamal Sami avait gagné le marché de construction de 4500 maisons. Seules 17 ont été construites alors qu'il a reçu 17 millions de dollars. Il avait également obtenu un contrat pour la compagnie Ousmal. La société civile s'était inquiétée du fait que ces contrats avaient été attribués à 2 sociétés récentes créées par le même gérant. Safrikas Congo de David Blattner est l'une des entreprises qui exécute les travaux de construction de 7 ponts routiers à Kinshasa. Un an après l'annonce des travaux dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours de Félix Tshisekedi, aucun saut de mouton n'a été inauguré. Le ministre de la Justice, Célestin Tunda Yakassende, a dit souhaiter que cette information judiciaire marque le début du renouveau de la justice en République démocratique du Congo.
Également dans l'actualité en Côte d'Ivoire, le procès en appel du président du conseil régional du Béké a été reporté au 24 mars prochain en raison de l'absence de l'accusé, écroué à Abidjan. Jacques Mangoua, condamné à 5 ans de prison, n'avait pas été transféré pour l'audience au grand dam de la défense. Kémi Séba, qui voulait venir à Dakar afin d'être jugé en appel pour avoir brûlé un billet de 5000 francs CFA, a été refoulé hier soir du Sénégal vers Bruxelles. Le militant français d'origine béninoise, qui se présente comme anticolonialiste, a été embarqué de force à l'aéroport international Blaise Diagne dans un vol à destination de la capitale belge. Son procès en appel était prévu hier, mais a été renvoyé au 27 avril prochain. Au Nigeria, un tribunal a condamné un ancien porte-parole du Parti démocratique populaire à 7 ans de prison pour corruption. Le PDP est un parti d'opposition, l'une des principales formations politiques du pays. Olisa Metou a été reconnu coupable de 7 chefs d'accusation, notamment de corruption et de blanchiment d'argent. L'ONU tente d'empêcher aujourd'hui la rupture de pourparlers interlibyens à Genève au lendemain de l'annonce par les deux camps rivaux de la suspension de leur participation au dialogue politique qui doit démarrer demain, plus de 8 ans après la chute de Muammar Kadhafi qui a plongé la Libye dans le chaos. Ces pourparlers politiques visent notamment à mettre un terme aux divisions et former un nouveau gouvernement unifié. L'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a effectué ce mardi une visite officielle de quelques heures en Algérie, durant laquelle il s'est entretenu avec le président Abdelmadjid Tebboune. Arrivé en milieu de matinée à Alger, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani s'était auparavant rendu en Tunisie hier et dimanche en Jordanie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le nouveau coronavirus continue à faire des victimes, particulièrement en Iran, au Japon et en Corée du Sud. Pour la communauté internationale, la multiplication des cas de contamination, y compris en Europe, accroît les risques de pandémie, surtout dans les pays pauvres. La Chine, pour sa part, se dit prête à offrir aide et matériel médical aux pays africains face à l'épidémie, qui constitue pour eux un défi de santé publique. C'est le président chinois Xi Jinping qui le dit davantage avec Claire Morin-Gébourg.
La Suisse, l'Autriche et la Croatie ont annoncé leur premier cas de coronavirus. L'Italie est le pays européen le plus touché avec 283 cas et 7 morts. En Iran, le Covid-19 a tué 3 nouvelles personnes. À Washington, Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine, exhorte Téhéran à dire la vérité sur l'épidémie. Hier, un député iranien a affirmé que le bilan était de 50 morts, ce que Téhéran a démenti. L'OMS a averti que le monde risque une pandémie et s'inquiète particulièrement pour les pays pauvres, mal équipés. Lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le président chinois Xi Jinping a promis de fournir au continent du matériel médical et des tests de dépistage. Il a également promis un renforcement de la coopération sino-africaine en matière de santé publique, de prévention et de contrôle des maladies. Jusqu'à présent, l'Égypte est le seul État d'Afrique à avoir enregistré un cas confirmé.
Le président américain a conclu aujourd'hui son voyage de 2 jours en Inde. Donald Trump et le premier ministre indien Narendra Modi affirment que leur pays travaille sur un accord commercial. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le président Donald Trump a annoncé la conclusion d'un accord avec l'Inde qui va acheter des hélicoptères et autres équipements militaires des États-Unis pour 3 milliards de dollars. M. Trump a aussi évoqué les échanges commerciaux sur les motos.
Lorsque vous traitez avec l'Inde, Harley Davidson doit payer des tarifs énormes quand ils envoient des motos ici. Et lorsque l'Inde envoie des motocyclettes aux États-Unis, il n'y a pratiquement pas de tarifs pour la plupart. Alors, j'ai juste dit que c'était injuste et que nous travaillons sur ça.
Donald Trump a ajouté que les deux pays élargissent leur coopération en matière de lutte contre le terrorisme, de cybercriminalité et de sécurité maritime. Pour sa part, le premier ministre indien Narendra Modi a affirmé que Donald Trump et lui ont aussi eu des discussions sur l'énergie et la coopération technologique.
En Inde encore, le bilan des affrontements intercommunautaires à New Delhi s'est alourdi à 13 morts. La capitale indienne est le théâtre de violentes émeutes depuis dimanche dernier. 150 personnes ont été blessées, dont une dizaine se trouvent dans un état critique. La plupart des décès ont été causés par des armes à feu, d'après des médecins sur place. En Syrie, au moins 19 civils ont été tués ce mardi dans des bombardements du régime syrien sur la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays. C'est ce qu'a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon l'ONG, 8 enfants font partie des victimes des frappes aériennes et des tirs d'artillerie sur la ville d'Idleb et les localités de Binic et Maharet Misrin. Ici même, aux États-Unis, Bernie Sanders, en pleine dynamique victorieuse, se retrouvera lors d'un nouveau débat ce mardi soir, la cible principale des autres candidats à l'investiture démocrate qui devraient lui reprocher ses positions jugées très à gauche ou ses voyages passés dans des pays communistes. Ce débat, qui prend place 4 jours avant un vote crucial des primaires démocrates en Caroline du Sud, offrira également à Joe Biden une dernière chance de revenir dans la course. Bernie Sanders est jusqu'ici le grand vainqueur de ces primaires, après avoir obtenu samedi dernier 46,8% des suffrages dans le Nevada, loin devant l'ancien vice-président américain. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale là, ce soir. Un tour d'horizon des nouvelles économiques en Afrique. Nous retrouvons Nani Talani.
L'Égypte lancera un appel d'offres d'exploration d'or et d'autres minéraux du 15 mars au 15 juillet, a annoncé ce mardi le ministre du Pétrole. Les investisseurs feront une offre sur des blocs qui leur seront attribués dans les 4 mois suivant le lancement des enchères. En janvier, l'Égypte a publié de nouvelles réglementations qui éliminent la nécessité pour les sociétés minières de former des co-entreprises avec le gouvernement et de limiter les redevances d'État à un maximum de 20%. Au Maroc, le taux d'activité était de 45,8% l'an dernier. Seulement, moins d'un Marocain sur deux en âge de travailler était actif, selon des statistiques officielles publiées ce mardi. Le taux le plus bas concerne les femmes et les jeunes de 25 à 34 ans. Sur les 26 millions de personnes en âge d'activité, 15 millions sont en dehors du marché du travail. Pour terminer, le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Moutaz, a rencontré un émissaire japonais pour discuter de nombreux projets relatifs au secteur de l'agriculture, l'industrie, la technologie, l'immobilier, l'énergie et la transformation au Cameroun. Les deux hommes ont évoqué les problèmes auxquels le Cameroun est confronté pour voir quel soutien les entreprises japonaises peuvent apporter aux Camerounais dans tous les secteurs suscités.
Et maintenant, les dernières nouvelles sportives avec Yacouba Ouiravgo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Cyclisme, Jonathan Valencia remporte la 3e étape du Tour du Rwanda.
Oui, le Colombien a enlevé cette 3e étape courue entre Houyé et Rusizi. Jonathan Valencia a bouclé les 142 km en 3h47min49s devant l'Érythréen Binyam Aïlou et son compatriote Enoch Moulié-Béran. À l'issue de cette étape, le Kazakh Yevgeny Fedorov cède le maillot jaune à Binyam Aïlou. Ce dernier possède 5 secondes d'avance sur Moulié-Béran. Le Colombien Carlos Julian Quintero complète le podium. Demain, la 3e étape, la plus longue, 206,3 km, se court entre Rusizi et Rubavu.
Le Zimbabwe recevra l'Algérie sur terrain neutre en éliminatoire de la CAN 2021.
Ainsi en a décidé la CAF d'après un communiqué de la Fédération Zimbabwéenne de football. Conséquence, le match du 29 mars contre l'Algérie devra se disputer dans une enceinte homologuée mais hors du Zimbabwe. L'instance africaine du ballon rond reproche au Zimbabwe la non-conformité de son stade avec les standards internationaux. À l'issue d'une inspection en fin d'année dernière dans le pays, la CAF a fait plusieurs recommandations, mais depuis, rien n'a été fait. Le pays ne dispose plus de stade aux normes pour accueillir des rencontres internationales.
Ligue des champions ce soir en Europe.
Oui, le FC Barcelone se rend en Italie pour y affronter Naples du Sénégalais Kalidou Koulibaly pour le compte du match aller des 8e de finale. Sur le terrain, le Barça, avec ses 5 titres dans la compétition, part favori contre le Napoli, qui n'a remporté que l'Europa League avec un certain Maradona en 1989. En Liga, les Catalans ont sorti un match référence samedi avec un festival offensif contre Eibar, victoire 5-0 et un quadruplé de Messi. Mais Naples, 6e de Serie A, reste sur 6 victoires en 7 matchs. Gros défi aussi pour Chelsea qui reçoit à Stamford Bridge. Le Bayern Munich avec sa série en cours de 11 matchs sans défaite, 10 victoires et 1 nul. Coup d'envoi de ces deux rencontres, 20h, temps universel.
Dernier adieu à Kobe et Gianna Bryant.
Oui, environ 20 000 personnes dont Vanessa Bryant et ses 3 autres filles étaient présentes hier au Staples Center. Elles ont rendu un dernier hommage à Kobe Bryant et à sa fille Gianna. mort le 26 janvier dans un crash d'hélicoptère, intitulé « Une célébration de la vie pour Kobe et Guyana Bryant ». Cet hommage public s'est tenu à la date symbolique du 24 février. Cette date a été retenue car Kobe Bryant a porté le maillot numéro 24 pendant les 20 ans où il a joué avec les Los Angeles Lakers et aussi parce que sa fille, joueuse prometteuse, évoluait elle avec le numéro 2. Des stars du basketball comme LeBron James, Michael Jordan, Karim Abdul-Jabbar, entre autres, sans oublier le patron de la Ligue, Adam Silver, ont assisté à la cérémonie, de même que des célébrités de la musique comme Jennifer Lopez.
Merci, Yacouba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Il est 18h15 sur VOA Afrique, à mi-chemin dans l'émission, et il est l'heure de vous proposer notre segment magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Mille merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Retour sur la disparition de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak, longtemps considéré comme le symbole de la stabilité au Moyen-Orient, mais évincé lors d'un soulèvement populaire en 2011. Il est décédé ce mardi à l'âge de 91 ans. Son régime a été balayé par le printemps arabe. Elisabeth Arrot de la VOA revient sur la vie de celui que certains appelaient le Raïs ou le Pharaon. Le récit est d'Abdourahmane Dia.
Hosni Moubarak était aux commandes pendant près de 30 ans et il a fait de la gestion du pays une affaire familiale. Il avait placé ses amis et sa famille à des postes stratégiques. On le soupçonnait aussi de vouloir préparer son fils à lui succéder, jusqu'à ce que la rue en décide autrement. Et c'est son vice-président Omar Suleiman qui a annoncé la nouvelle de sa démission.
Dans ces circonstances difficiles que traverse l'Égypte, le président Moubarak a décidé de démissionner de son poste de président.
Quelques mois plus tard, il était au banc des accusés, jugé pour le meurtre de manifestants. Il a été condamné à la prison à perpétuité. C'était une fin politique impensable pour celui qui était le seul président que la plupart des Égyptiens ont connu. Pourtant, la présidence ne semblait pas être parmi ses ambitions. En 1981, les frères musulmans avaient tué le président Anwar Sadat, en partie pour avoir fait la paix avec Israël. Le vice-président Hosni Moubarak était à ses côtés. Cet événement tragique l'a propulsé à la tête du pays. Malgré son rôle dans la guerre de 1973 contre Israël en tant que chef de l'armée de l'air, il est devenu un élément incontournable dans le rapprochement entre l'Égypte et l'État hébreu lorsqu'il a pris le pouvoir. Il va diriger le pays d'une main de fer pendant 3 décennies, le plaçant en situation d'état d'urgence quasi permanente. Hussein Abdel Razak, l'ancien chef du parti de gauche Tagamou.
L'objectif premier de Moubarak était la paix et la stabilité.
Mais ce sont les activistes et les opposants qui ont payé le plus lourd tribut de sa politique dite sécuritaire. Kissam Kassem, analyste politique.
Nous ne parlons pas seulement de quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 30 ans et qui n'a rien fait. Avec lui, c'était l'obscurité. C'est cela son héritage. Il était ultra corrompu.
Aujourd'hui, malgré tout, le pouvoir actuel et certains parmi ceux qui l'ont combattu ont tenu à lui rendre hommage. Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la commission électorale togolaise a proclamé le président sortant Faure Gnassingbé vainqueur de la présidentielle du 22 février avec plus de 72% des voix. L'opposant Agbeyome Kodjo conteste les résultats et appelle à la mobilisation. Le scrutin qui a conduit à la réélection de Faure Gnassingbé pour un 4e mandat s'est déroulé dans le calme. Qu'est-ce qui explique la large victoire du président Faure? La période post-électorale ouvre telle des perspectives de dialogue au Togo. Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Les dirigeants réunis pour un sommet du G5 Sahel à Nouakchott ont affirmé ce mardi la nécessité d'une intensification tous azimuts de l'effort face à l'urgence de la propagation du djihadisme et des violences dans la sous-région. Le G5 Sahel inclut la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad et fournit depuis 2014 un cadre de coopération entre ces pays sur la sécurité et le développement. Le sommet a lieu alors que le Sahel est confronté à une forte poussée djihadiste et une sévère dégradation sécuritaire, aggravée par une série de défis démographiques, économiques et environnementaux, sans solution apparente à court terme. Pour une analyse, Idriss Fall a joint Mohamed Ould Hattab, rédacteur en chef de l'agence Nouakchott Info.
La Mauritanie a accueilli aujourd'hui ce sommet parce qu'il va y revenir après le Burkina Faso, qui est dirigé depuis février 2019 et donc qui est en fin de mandat. C'est une présidence qui est tenante et qui revient à la Mauritanie. La Mauritanie, vous savez, joue un rôle le plus beau dans le G5 Sahel, dans ses aspects opérationnels, que ce soit avec l'accueil de sa première réunion ou en habitant le siège du secrétariat permanent, ou encore son école militaire. Et évidemment, la Mauritanie a accueilli en décembre dernier la première conférence des hommes d'affaires de la région du Caire sur le continent, c'est entre l'Union, entre le monde arabe et le monde africain.
Parlant des États membres du G5 Sahel, on a l'impression que l'approche n'est pas globale ni commune parce que le Mali a reconnu vouloir engager des discussions avec certains leaders djihadistes.
C'est une position propre au Mali. Nous avons entamé en Mauritanie un dialogue avec les djihadistes et on a réussi à les convaincre à revenir sur leur position à l'époque. La lutte armée seule ne peut pas se faire pour éradiquer les terroristes. Il faut aussi discuter sur le plan théologique pour convaincre les jeunes qui ont été tentés par le terrorisme, qui ne comprennent rien à la religion, et pour pouvoir, si vous voulez, affaiblir cette emprise qu'ils ont fait.
Et Jean-Yves Le Drian, le ministre français, est à Nouakchott. La France a remporté sa présence au Sahel, mais en même temps, il y a une montée aussi d'un sentiment anti-français.
Cela est peut-être dû à la faiblesse, j'allais dire, quelque part de certains engagements. C'est pourquoi d'ailleurs le sommet de Pôle en janvier pour impulser cet engagement. Mais la force conjointe créée en 2017 par les 5 États du Sahel doit, si vous voulez, rassembler en pleine capacité opérationnelle 5000 hommes. Elle a déjà mené des opérations au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Les G5 en temps aussi lutter contre l'insécurité et mener des actions de développement pour désenclaver la zone. Et il y a beaucoup de facteurs. C'est que l'engagement aujourd'hui, il est devenu international, même avec les Américains qui reconnaissent qu'il faut apporter la contribution.
Les Américains, ils étudient la possibilité de réduire leur présence militaire sur le continent.
Les Américains ne veulent pas réduire leur présence américaine sur le territoire africain. Ils veulent repositionner leurs hommes. Si il y a plus d'intérêt à aller combattre le terrorisme à l'ouest, ben, il faut aller à l'ouest. S'il le faut au nord ou au centre, il faut y aller. Ce n'est pas un désengagement américain, c'est un repositionnement. Ce sont des propos qui ont été tenus par des responsables américains. Et même, nous avons tenu récemment une réunion à l'ambassade américaine à l'occasion du 3 octobre 2020. C'est comme ça qu'ils ont expliqué les choses. On ne se désengage pas, on se repositionne.
On écoutait Mohamed Ould Hattab, il est rédacteur en chef de l'agence Nouakchott Info et il était en ligne de la capitale mauritanienne. Nouveau développement dans l'enquête sur des abus présumés dans la gestion de grands travaux à Kinshasa. Nous sommes en République démocratique du Congo. Le patron libanais d'une entreprise de construction, Jamal Sami, de la compagnie Somibo, a été placé en détention préventive. Il rejoint en détention l'entrepreneur américain David Blattner, arrêté vendredi dernier. Eddie Isango nous a préparé un dossier sur le sujet.
Mardi matin, Jamal Samit, sujet libanais, patron d'une société nommée Somibo, a été placé en détention préventive à Makala, accusé de n'avoir pas réalisé la construction des 4500 logements sociaux alors qu'il avait perçu 17 millions de dollars. Réaction du président de la Ligue congolaise de la lutte contre la corruption, Ernest Mpararo.
une intervention effectivement normale parce qu'il y a eu des infrastructures qui avaient été financées par les fonds du gouvernement et nous observons à Kinshasa que ces infrastructures-là, ces projets-là n'avancent pas. Ça fait à peu près une année que ces infrastructures-là étaient financées, mais nous insistons à ce qui se passe, c'est que ces infrastructures n'avancent pas. La grande majorité des Congolais dénoncent ce genre de faits et c'est ainsi que le chef de l'État a réagi en ordonnant effectivement au parquet d'investiguer et d'interpeller toutes les personnes qui sont impliquées dans ces détournements. Ce n'est pas encore un signe que ça va produire un fruit parce que tout ce qui se passe lorsque l'appareil judiciaire est hyper politisé en RDC, et la première chose que nous demandons aux politiques, ce n'est pas interférer dans la procédure ou lorsque le parquet est en train d'entendre ou d'investiguer. Et c'est ce qui est le plus grand problème.
Vendredi, l'Américain David Blattner, patron des Africas, a été lui également mis en détention préventive pour des viaducs ou sauts de moutons dont la construction de certains n'ont pas encore débuté près d'un an après. Le député de Kinshasa, Gérard Jekoko Mulumba, estime que la démarche du président Félix Tshisekedi doit aller jusqu'au bout.
Ce n'est pas ça la fin de la procédure. Si ça vrai que ces messieurs-là avaient perçu de l'argent, qu'ils n'avaient pas du tout travaillé, ils doivent commencer par restituer l'argent de l'État qui m'appartient, qui appartient à tous les Congolais, et qu'ils soient punis sévèrement. Qu'ils soient Libanais, qu'ils soient Américains, qu'ils soient Chinois, on s'en fout de sa nationalité, on s'en fout de leur nationalité, nous, c'est l'argent du Congo.
Dans le même temps, une plateforme d'ONG demande au président Félix Tshisekedi d'ordonner des audits contre les entreprises de Dan Gertler, homme d'affaires israélien opérant en RDC. Un des membres de la campagne « Le Congo n'est pas à vendre », Emmanuel Umpula, nous en parle.
L'État congolais, à travers ses entreprises, a perdu beaucoup d'argent. Donc, c'est tout à fait normal, dans le cadre du contrôle citoyen, que la campagne « Le Congo n'est pas à vendre » puisse demander à ce que le président de la République autorise le gel des avoirs de ces entités-là, mais aussi puisse initier, demander à ce qu'un audit soit initié. Dans beaucoup de pays, les enquêtes qui sont dirigées contre les transactions faites en RDC, vous avez le cas des États-Unis, qui est un cas qui est patent où M. Dan Gertler et toutes ses entités sont sanctionnées. Donc, pour nous, en tant qu'ONG, nous disons que si à l'étranger, ces entités-là sont poursuivies, pourquoi pas dans les pays où elles ont eu lieu.
Le président Félix Tshisekedi avait annoncé à son arrivée au pouvoir l'année dernière que la lutte contre la corruption était son cheval de bataille.
Cap maintenant sur le Sénégal, où le président Macky Sall a inauguré le parc éolien de Taïbandjaï, dans la région de Thiès. Ce projet d'une capacité de 158,7 MW permettra de fournir de l'électricité à 2 millions de personnes, soit un huitième de la production électrique du pays. Il marque également la volonté de Dakar de privilégier le mix énergétique pour mieux assurer la fourniture d'électricité. Reportage de notre correspondant à Dakar, c'est Dina Bagay.
La centrale éolienne de Taïbandjaï sera à terme la plus importante d'Afrique de l'Ouest. En plus de cela, elle est d'une importance capitale pour le Sénégal puisque la mise en service du tiers de sa capacité représente déjà 5% de la production du pays. C'est ce qu'indique Saher Diop, directeur des énergies renouvelables de la Société nationale d'électricité, Sénélec.
Quand les trois phases seront complètes, cette centrale sera de 158 MW. Aujourd'hui, nous sommes dans l'exploitation de la première phase de 55 MW. Elle traduit aussi l'introduction de l'éolienne dans la production interconnectée de Sénélec. Jusqu'à présent, le Sénégal avait de l'hydraulique, du thermique et du solaire. Maintenant, on a introduit l'éolienne et ça concrétise une variation encore plus riche de notre mix énergétique.
Le Sénégal possède un mix énergétique qui devrait lui permettre d'avoir une plus grande flexibilité dans le sous-secteur de l'électricité. Pour le président Macky Sall, c'est une étape importante que le pays vient de franchir dans sa marche vers l'émergence.
C'est le Sénégal qui carbure, poussé dans son élan par un mix énergétique qui allie toutes nos potentialités afin d'assurer un service continu de qualité et à des coûts compétitifs, de diversifier nos sources d'énergie pour nous affranchir d'une trop forte dépendance aux énergies classiques, mais aussi d'étendre la fourniture de l'électricité à l'ensemble du monde rural afin que tout le pays soit éclairé à l'horizon 2025.
En attendant 2025 et l'accès universel à l'électricité annoncé, les Sénégalais lambda comme Badara espèrent que la mise en service du parc éolien de Taïba Ndiaye et l'exploitation des énergies renouvelables et propres auront une incidence directe sur le coût de l'électricité, qui a récemment connu une hausse.
C'est que l'on maintenait. Il sera inconcevable de pouvoir compter sur les énergies renouvelables sans pour autant que le coût de l'électricité baisse. L'électricité ne doit plus connaître de hausse. Le déficit aussi doit être pallié. Nous, nos réelles préoccupations, c'est cela. Le mix énergétique dont on parle et les futures productions de pétrole et de gaz doivent nous permettre de dépasser les problèmes de l'électricité.
Le passage tant attendu au gaz est prévu en 2022 et permettra au Sénégal de devenir l'un des rares pays à utiliser 90% d'énergie propre, d'après le président Macky Sall. Ce dernier a également annoncé que le pays va passer de 22% d'énergie renouvelable à 30% dès que la centrale éolienne de Taïba Ndiaye atteindra sa capacité maximale. Le chef de l'État a en outre affirmé que ce nouveau parc éolien permettra d'éviter le rejet de 300 000 tonnes de gaz carbonique par an dans l'atmosphère. À Dakar, Sidina Abagui pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma, la console Audrius Regis. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. À très bientôt. Au revoir.